Hello, bienvenue dans l'épisode du jour de Renaissance, le podcast qui met un stop au tabou sur les violences sexuelles pour aider les survivants à libérer leur parole, redonner du sens à leur vie et faire de leur drame une force. Que tu sois concerné par de l'harcèlement, une agression ou un viol, l'impact est le même. Je suis Aurélie Lemonnier, coach professionnelle, conférencière et auteure de ce podcast. Aujourd'hui, je vais te proposer un épisode consacré à de l'information et de la prévention. Promis, je ne vais pas faire la rabat-joie avec les chiffres. De toute façon, je vais te donner mes sources et tu pourras, si tu le souhaites, aller creuser un petit peu plus. Mais j'ai surtout envie de te donner cet impact, de te dire stop. Que tu sois concerné ou pas par ces violences, que tu puisses te sentir concerné cependant par la cause. Concerné par l'envie de mettre un stop à ces tabous et ces non-dits, parce que oui, nous sommes dans un véritable fléau. Avant de te présenter les chiffres clés, ce qui me paraissait important, c'est de pouvoir t'éveiller sur ce fameux terme de violence sexuelle. Parce que je me suis rendu compte que finalement, moi pour ma part, je l'englobe pour pouvoir prendre en considération les trois niveaux de violence sexuelle. Mais très souvent, les gens me font part que pour eux, les violences sexuelles ne représentent que le viol. Cependant, les violences sexuelles, c'est trois types de violences. Et très clairement, pourquoi j'insiste à englober les trois niveaux, c'est que malheureusement, beaucoup de victimes minimisent les violences subies parce que, je cite, « ça n'a pas été jusqu'au viol, donc c'est pas grave ». Malheureusement, je peux te confirmer que les conséquences traumatiques sont exactement les mêmes, quel que soit le niveau. En France, la loi reconnaît ces différentes formes de violences sexuelles et il est essentiel de comprendre que la loi va évoluer aussi avec le temps et qu'il y a des nouvelles formes de violences sexuelles qui peuvent être reconnues et surtout punies en conséquence. Le premier niveau, c'est le harcèlement sexuel. Il implique des comportements non désirés à caractère sexuel. Cela peut être des commentaires désobligeants, des remarques à caractère sexuel, des blagues obscènes, des commentaires dégradants sur l'apparence physique par exemple. Sache que même si aux yeux de la loi, l'harcèlement est défini dès la première conséquence, dès le premier acte, toi-même de ton côté, tu peux te dire « ok, je laisse passer un premier commentaire, ok ». Mais à répétition, c'est clairement du harcèlement et cela peut justifier un mal-être chez toi, de la perte de confiance ou une... Cela peut être aussi des avances non sollicitées, des tentatives non désirées d'engager des relations sexuelles, que ce soit par des paroles, des gestes ou des propositions, et malgré le refus clair de la personne ciblée. Vraiment, ce qui va être très important, c'est cette notion de consentement. Un non, c'est non. Et même si la personne ne passe pas à l'acte physique, insister sur ses avances, c'est du harcèlement. J'ai eu l'occasion d'échanger avec une avocate et l'intimidation sexuelle au travail fait partie également de l'harcèlement qui est très souvent reconnu. En fait, la personne va utiliser de sa position hiérarchique pour faire pression sur ses employés à des fins sexuelles, des demandes de faveurs en échange de promotions, de bonnes évaluations ou de conditions de travail favorables. Donc oui, en 2024, la promotion canapé, c'est toujours d'actualité. Et cette position hiérarchique laisse croire à certains qu'ils ont tous les pouvoirs. À l'heure des réseaux sociaux, on va retrouver bien évidemment aussi l'harcèlement, le cyberharcèlement sexuel, l'envoi de messages, de photos, de vidéos à caractère sexuel non sollicité, avec éventuellement aussi des menaces de divulgation de contenu intime ou de la diffusion de rumeurs sexuelles à ton sujet. Ça peut être aussi de l'exposition non consensuelle, de montrer délibérément des parties intimes de son corps, des images pornographiques ou des actes sexuels à une personne sans son consentement. T'as bien compris que dans toutes les situations, on parlera toujours de cette notion. Bon, clairement, je pourrais te citer encore plein d'exemples, mais même du coup, tout ce qui peut être commentaire dégradant. Tu sais, la personne qui va te faire un commentaire humiliant, mais avec quand même un caractère sexuel, en présence d'autres personnes pour un peu faire le clown de service, etc. Et puis, bah, tu sais, avec la phrase derrière, mais c'est pour rire. Non, mais t'as pas d'humour. Tu la connais, celle-là ? Est-ce que tu as déjà eu cas à cette situation ? Parce que très clairement, il n'y a pas de parole pour rire. Les mots ont une importance et au pire, Même si c'est pas conscient, inconsciemment, il y a toujours une part de vérité. Donc, il n'y a pas de place à l'humour sur des commentaires avec un côté humiliant à caractère sexuel. Je dois t'avouer que je me suis un peu plus épanchée sur tous ces exemples de harcèlement pour que tu comprennes que très, très, très clairement, tu as sûrement été victime d'harcèlement sexuel très facilement dans ton quotidien. Pourquoi j'insiste sur ce premier niveau, c'est que justement, on a souvent tendance à se dire « c'est pas si grave ». Mais très clairement, à partir du moment où ça a été une atteinte physique pour toi et ton intégrité, eh bien, encore une fois, les conséquences traumatiques peuvent être exactement les mêmes qu'une agression ou qu'un viol. Donc maintenant, le deuxième niveau de violence sexuelle, c'est l'agression sexuelle. Elle va se produire quand quelqu'un commet des actes de nature sexuelle sans le consentement de la victime. J'insiste, de toute façon, ces trois niveaux sont toujours en considération justement de cette histoire de consentement. Donc cela va inclure des attouchements, des baisers forcés, des caresses forcées ou d'autres actes à caractère sexuel. Et maintenant, je vais te présenter le troisième niveau, le viol. Je dois t'avouer que je me suis interrogée à me dire est-ce que je te donne la définition complète qui pourra peut-être choquer, perturber, déranger certaines personnes. Cependant, je me suis dit, je mets les pieds dans le plat, autant y aller jusqu'au bout et je trouvais important d'avoir une définition complète du viol pour que ce soit clair à l'esprit de tous et qu'encore une fois, certaines situations ne soient pas minimisées parce qu'on n'a pas correctement compris la définition. Le viol est défini par tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit. C'est-à-dire que ça prend en compte la pénétration qu'elle soit buccale, vaginale et anale. Je vais continuer d'être un petit peu crue, mais la Cour de cassation a réellement défini aussi la fellation par justement comme étant qualifiée d'un viol dès lors qu'elle est imposée par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc oui, le viol n'est pas caractérisé que par une pénétration vaginale ou anale. Je vais bien évidemment encore rappeler la notion importante de consentement parce qu'un viol sera bien caractérisé ainsi par tout acte commis par violence, contrainte, menace ou surprise. La violence, elle n'est pas que physique. On parle également donc de menace parce qu'on peut parler de violence psychologique, de violence avec de la manipulation, avec ce côté emprise. Donc vraiment, ce sont tous ces points-là qui vont caractériser le viol. Le message le plus fort que je veux te faire passer, c'est que ces distinctions, elles sont juste faites pour une clarté pénale, parce que lors des jugements, dans les trois cas, il ne va pas se passer la même chose. Cependant, ton intégrité physique, psychologique et morale est bel et bien atteinte. Donc tu mérites exactement la même justice de ne pas rester dans la souffrance de ces actes. Une dernière définition qui me semblait importante de te donner, c'est de te parler d'inceste. L'inceste, en fait, va regrouper ces trois niveaux de violence, mais ça va venir surtout caractériser l'acte qui se produit au sein d'une même famille. Et donc, considéré comme un inceste quand l'agresseur est un ascendant, ou toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Je te lis très clairement l'article 222.31.1 du Code pénal. Grosso modo, l'agresseur dans un cas d'inceste, c'est un parent, un grand-parent, un oncle, une tante, un frère, une sœur, un beau-père, une belle-mère, un cousin, une cousine ou également un tuteur qui détient l'autorité parentale. Alors maintenant, place aux chiffres. Je trouve que c'est important d'en parler parce que finalement, notre cerveau, il est un petit peu fait aussi avec ce côté où tant qu'on n'a pas des faits, tant qu'on n'a pas des choses concrètes qu'on nous expose tous les yeux, eh bien peut-être qu'on peut se dire « Oh ouais, non mais on en parle comme ça, mais c'est pas vraiment concret en fait ». Donc là, je vais te donner des chiffres pour, encore une fois, faire éveiller encore plus de conscience. Parce qu'aujourd'hui, c'est un Français sur 10 qui est concerné par ces violences. Et dans ces chiffres, On ne tient pas compte de toutes les personnes qui souffrent d'amnésie traumatique. Je t'en ai déjà parlé sur les épisodes précédents. C'est moi-même quelque chose que j'ai malheureusement connu. J'ai souffert d'amnésie traumatique. Comme je t'ai dit, je vais y consacrer vraiment un épisode un peu plus spécial plus tard. Mais très, très rapidement et très succinctement, c'est un phénomène en fait de ce qu'on appelle de stress post-traumatique. C'est que notre cerveau est capable en fait de nous faire oublier, de nous mettre dans cet état d'amnésie pour nous faire oublier les pires horreurs. Donc, dans le conscient, concrètement, on a oublié ce qui s'était passé, mais inconsciemment, ton corps, lui, n'a strictement pas oublié. Et c'est comme ça aussi que tu peux en déclencher des problèmes de santé, un mal-être d'une manière globale, qui fait que le corps essaye de faire ressortir, essaye de faire parler un mal-être. Ces chiffres ne tiennent pas compte aussi de toutes les personnes qui n'en ont jamais parlé, qui se sont dit « bon allez, j'ai mis ça sous le tapis, j'ai pas envie de le faire ressortir » parce que à 90% des cas, il faut pas oublier aussi que c'est l'agresseur, c'est quelqu'un qui est connu, c'est très souvent quelqu'un qui fait partie de la famille. Donc automatiquement, on peut aussi se dire « bah j'ai peut-être envie de protéger tous mes proches, donc je vais garder le silence ». Donc ce fameux chiffre d'un Français sur 10 ne prend pas aussi en compte toutes les personnes qui n'ont jamais parlé. J'ai vraiment envie de t'alerter aussi que toutes les 2 minutes 30, il y a un viol ou une tentative de viol en France. Et vraiment, en fait, ces chiffres me glacent parce qu'aujourd'hui, elle est réellement là, la réalité. Il faut aussi que tu saches qu'une femme sur 6 fait son entrée dans la sexualité par un rapport qui n'est pas consenti et qui n'est pas désiré. Et bien souvent, pour 36% de ces femmes, ce rapport a lieu avant les 15 ans. Toujours en France, plus d'une femme sur 2 a déjà été victime d'harcèlement ou d'agression sexuelle au moins une fois dans sa vie. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai énormément insisté sur la partie harcèlement pour te donner un maximum d'exemples. Parce que oui, si tu te sens ok, tu as subi de l'harcèlement et qu'aujourd'hui, tu es ok, tout va bien dans ta vie et juste après, je vais te parler justement des différentes problématiques qui peuvent ressortir, c'est ok. Mais ce qui est important de venir l'identifier et oui, de mettre les pieds dans le plat, c'est que tout ça, ça entraîne réellement des problématiques dans ta vie et c'est important que tu le saches pour ne pas te dire « bah je suis obligée de subir ma vie, je suis obligée de subir ses conséquences » quand on sait qu'il y a réellement un lien avec cet harcèlement, ces agressions et que justement tout ça, tu peux y remédier. Quelque chose aussi qui m'était très 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 important de signifier dans cet épisode, je l'avais déjà évoqué sur mes réseaux sociaux, c'est pour ça que justement je ne m'adresse plus uniquement aux femmes victimes de violences sexuelles, mais bien à tous les survivants, parce que à l'heure d'aujourd'hui, un homme sur 5 est concerné aussi par ces violences. Et ça, c'est important d'en parler parce que je sais que avec beaucoup d'hommes avec qui j'ai pu échanger sur ces violences, eh bien justement, on vient toucher aussi à cette fameuse intégrité masculine. Pour beaucoup d'entre eux, il y a eu beaucoup d'interrogations aussi sur leur identité sexuelle, sur leur identité d'une manière globale. Et c'est vrai que, à la différence aussi des femmes, eh bien du coup, on n'imagine pas qu'un homme puisse lui aussi être victime. Et finalement, dans son développement à beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux, les impacts sont même des fois encore plus importants que chez une femme. Alors tous ces chiffres, bien évidemment, je ne les invente pas. Je tiens à remercier l'Institut Symbiophy dans lequel j'ai été formée à avoir des spécialisations justement donc sur les violences sexuelles et une belle mise en avant aussi de l'organisme Nous Toutes qui communique énormément pour informer et vraiment être axé prévention plus pour vous donner un maximum de chiffres. Maintenant, pour terminer cet épisode, j'ai envie de mettre en lumière tous les impacts, tout ce qui va se passer. Et malheureusement, ces violences sexuelles vont induire une destruction de l'identité physique et psychique des victimes. Et souvent, on a du mal à saisir la gravité des faits. J'ai énormément insisté sur l'harcèlement et les agressions. J'ai encore eu des personnes en appel découverte cette semaine qui justement m'ont clairement défini des agressions sexuelles qu'ils ont pu subir dans leur enfance. Malheureusement, schéma répété à l'âge adulte en ayant des relations avec des personnes dites toxiques, dites agressives, dites violentes, et malheureusement de se retrouver dans cette fameuse situation de répéter des schémas. Et c'est pour ça que c'est important de le mettre en lumière, c'est qu'aujourd'hui, on a peut-être tendance à minimiser les faits sur cet harcèlement et sur ces agressions parce que ce n'est pas grave, parce que ce n'a pas été jusqu'au viol. Mais quand je te dis que la destruction identitaire a le même impact derrière, c'est bel et bien réel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la loi du silence et des non-dits, qui prennent très souvent le dessus dans notre société, au sein de nos familles, parce qu'encore une fois, je vais me répéter, 90% des situations se passent dans la famille, stop. Parce que tout ça, toutes ces lois du silence, c'est au prix de toutes les lourdes conséquences psychologiques et physiques pour les victimes. C'est des conséquences aussi psychomatiques, avec des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles addictifs, des victimes qui sont susceptibles de présenter des troubles gastro-intestinaux. J'ai appris, et ça pareil, je le développerai un petit peu plus tard dans un autre épisode, en participant à un colloque, des études maintenant le soulignent que le syndrome de l'intestin irritable, une personne sur deux qui en souffre, aurait subi des violences sexuelles dans son enfance. Moi-même, à 19 ans, j'ai été diagnostiquée avec ce syndrome. Jamais de la vie, on a cherché à me mettre en lumière qu'il y avait un rapport avec tout ça. À partir du moment où j'ai confronté mon agresseur, ça a été un truc de dingue sur les symptômes par rapport à ce syndrome. Oui, dans un gros état de stress, de fatigue, je peux encore me retrouver en crise, mais ça n'a plus rien à voir avec le « avant libération ». D'un point de vue donc santé, ça peut être aussi des troubles musculaires, articulaires, neurologiques, gynécologiques. J'en reparlerai aussi un petit peu plus tard, mais notamment une de mes clientes que j'ai accompagnée, elle a eu recours à plusieurs FIV parce qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Quand on a travaillé ensemble, qu'elle a pu se libérer, qu'elle a pu se livrer à sa maman pour lui raconter tout ce qui s'était passé dans son enfance, elle est tombée enceinte et là m'a annoncé la bonne nouvelle il y a quelques semaines, elle est tombée enceinte naturellement. En fait, il y a énormément de conséquences sur le corps, sur nos émotions, qui sont liées aussi. Une perte totale de repères. Parce que bien souvent, et là je vais vraiment cibler tous les actes d'inceste, il va y avoir toute cette emprise et toute cette manipulation où l'agresseur a fait croire que c'était normal ce qui s'était passé. Et bien souvent, il y aura le fameux pacte « c'est notre petit secret » et en fait finalement, l'inceste va vraiment abolir tout repère, toute limite, tout cadre parce que finalement, il y a un peu ce brouillage psychique qui va se produire. Et après, on va vraiment parler de sentiments de trahison, de honte, de culpabilité, d'avoir l'impression d'être sali, d'avoir vraiment en fait tout ce côté où on se sent mais anéanti. Et qu'il peut y avoir aussi ce regret où on est très souvent au moment des actes d'agression en état de sidération. Et c'est-à-dire donc l'état de sidération, pour remettre dans le contexte, c'est qu'on se retrouve figé, on se retrouve en fait bloqué au moment des actes à ne pas réussir à se défendre. Et ça c'est pareil, c'est un mécanisme et donc ça rentrera dans l'épisode où je vous parlerai aussi de l'amnésie traumatique. Cet état de sidération, c'est le cerveau qui à un moment donné se met en mode bug et justement ne contrôle plus rien. Donc après les faits, tu restes à nouveau en fait sur ce côté à ne pas comprendre pourquoi tu as réagi comme ça, pourquoi tu ne t'es pas défendu et donc d'éprouver encore plus de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup de peurs qui se développent et qui sont les conséquences de ces violences sexuelles, que ce soit encore une fois de l'harcèlement, de l'agression ou un viol. La peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur d'être trahi, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Est-ce que c'est difficile pour toi de dire non ? Parce que justement, il se peut que, en ayant vécu cet inceste, ton agresseur t'a tellement manipulé que aujourd'hui, pour toi, de dire non, c'est pas quelque chose sur lequel tu vas être habitué en fait. La peur d'être accepté tel que tu es, ta honte de parler de ton histoire et finalement, tu vas vivre et je dirais même survivre dans un masque sous ta carapace parce que t'as pas envie qu'on puisse imaginer ce que t'as vécu. Et donc en général, tu vas être dans ce qu'on appelle aussi ce mécanisme de suradaptabilité et finalement pour aller bien masquer ta jolie carapace, eh bien tel un petit caméléon, eh bien en fait finalement, tu peux même développer une personnalité qui n'est strictement pas la tienne à surjouer cette bonne humeur, à surjouer ce dynamisme pour qu'on ne puisse pas imaginer ce qui t'est arrivé. Tu peux aussi avoir du mal à accepter et à demander l'aide des autres parce que tu penses que tu n'as besoin de personne. Comment tu le vis quand on contredit ce que tu dis? Comment tu le vis qu'on puisse remettre en doute ta parole? Est-ce que ça ne te mettrait pas en colère? Beaucoup de non-dits autour de toi, tu ressens vraiment cette culpabilité. Culpabilité pour tout, j'ai même envie de dire. Alors ce qui est génial, c'est que tu as sûrement développé une très grande force de caractère, mais au détriment de tes émotions. Parce qu'avec ta carapace, tu t'es totalement coupé de tes émotions. T'es peut-être même gêné aussi de recevoir des compliments parce que tu penses ne pas le mériter. Tu penses que cette personne, si elle te fait ses compliments, est-ce qu'elle n'aurait pas une arrière-pensée? Pour te créer ta carapace, tu n'oses peut-être pas aujourd'hui t'habiller comme tu veux. Pour te créer ta carapace, tu as peut-être décidé de te protéger avec 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 kilos de plus. Parce que justement, ces problèmes de poids te permettront de ne plus attirer le regard de l'autre et de ne plus être une cible d'un prochain agresseur. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as des problèmes de santé qui n'ont pas spécialement d'explication médicale grave, avec des guillemets? Tu t'es plaint de douleurs physiques diverses et variées, tu as fait tous les examens possibles et imaginables et en fait les médecins te donnent le même diagnostic, je suis désolée mais je vois rien de grave. Et là toi-même, tu vas commencer à te dire mais je suis pas fou, je suis pas folle, j'ai ceci, j'ai cela, pourquoi cliniquement parlant ça ne se voit pas? Eh bien tout simplement parce que tu vas rentrer dans ce qu'on appelle le mal à dire, ton corps exprime ce que tu n'exprimes plus verbalement. Et à partir de là, tu peux souffrir de problèmes d'angoisse, d'anxiété, de stress, de problèmes de sommeil, parce qu'encore une fois, ton corps imprime ce que tu n'exprimes pas. Et ça, je peux continuer. On peut également parler de ta sexualité. Tu peux te retrouver à rencontrer des difficultés dans ta sexualité. Tu es peut-être asexué, ou au contraire, une sexualité qui est débordante, voire excessive. Et finalement, un manque de lâcher prise dans les deux cas, et tu peux très bien être mal compris par ton ou ta partenaire. Je pourrais te lister encore plein d'autres problématiques. Mais là, tout ce que je viens de te dire, c'est le témoignage de plusieurs victimes. C'est les retours de plusieurs personnes que j'ai accompagnées en témoignage ou en coaching. Et en fait, ces problématiques, ce sont des choses qui sont revenues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai rassemblé aussi ces problématiques dans un outil qui te permet d'évaluer l'impact de tes violences sexuelles. Parce qu'aujourd'hui, ces problématiques, elles peuvent se travailler. Tu n'es pas obligé de les subir. Et surtout, quand tu comprends enfin que c'est bel et bien les conséquences de tes violences sexuelles et ce n'est pas parce que tu n'es pas normal, ce n'est pas parce que c'est ta faute, que tu n'es pas comme les autres, etc., que tu as ces différentes peurs, que tu as ces différents blocages, blessures, etc. C'est des conséquences de tes violences. Et tout ça, c'est quelque chose que je viens faire transformer dans mes accompagnements, par exemple. Donc aujourd'hui, tu as la possibilité, et je vais le mettre en lien de ce podcast, de télécharger gratuitement l'outil que je mets à disposition qui te permet donc d'évaluer l'impact de tes violences sexuelles. J'ai listé 20 de ces problématiques et en fait, tu vas pouvoir, par rapport à ces problématiques, déjà identifier ce qui résonne pour toi Un peu, beaucoup, pas du tout. Et en fait, justement, tout ce qui peut résonner pour toi, tu auras la possibilité de le noter. Et à partir de là, je t'aiguille dans cet outil à justement à une évaluation de ces impacts. Et vraiment, j'insiste, c'est le cœur de mon coaching, c'est le cœur de Renaissance de pouvoir t'aider à transformer tout ça. Parce que oui, le après, il est possible. Maintenant, je vais vraiment terminer cet épisode avec une conclusion. C'est que bien évidemment, tu vas avoir des choix. Tu as des choix à faire parce que ce qui est important, je ne veux plus que tu culpabilises. Ce qui t'est arrivé, rien ni personne ne pourra le changer. Et encore une fois, ce n'est pas de ta faute. La seule et unique personne responsable, c'est ton agresseur. Et ça, peu importe dans l'état physique que tu étais. Peu importe si oui, peut-être que malheureusement, tu avais un ou deux verres d'alcool en trop. Peut-être que oui, tu avais le plaisir de porter une jupe un peu courte si tu es une femme. Peut-être un décolleté. Mais ça n'excuse pas ton agression. Ça ne le justifie pas. Donc non, ce n'est pas de ta faute. Le seul et unique coupable, c'est ton agresseur. Donc ça, mets-toi-le en tête. Cependant, le après et ce que tu veux en faire, toi seul t'en es responsable. Et derrière ces traumatismes, tu as clairement trois voies. Bien évidemment qu'il peut sembler que ton monde s'effondre. Mais je veux vraiment que tu te rappelles que tu as toujours le pouvoir de choisir ton chemin. Tu peux laisser ces traumatismes définir ta vie, c'est un choix aussi. C'est aussi une décision de laisser, bah, clairement, ton passé dicter ton avenir. Parce que lorsque tu laisses le traumatisme définir ta vie, tu risques aussi de rester piégé dans ton passé et de te retrouver incapable d'avancer. La deuxième solution, c'est de laisser ces traumatismes te détruire. C'est une option que personne ne souhaite, mais parfois, les traumatismes peuvent te submerger à un point tel que tu as l'impression de t'effondrer et que rien ne peut changer. Cependant, rappelle-toi que la destruction n'est pas la seule issue et il y a de l'aide et du soutien qui est disponible pour toi. Et justement, la troisième option pour laquelle je me bats, parce que oui, j'insiste, le après est possible, c'est que ce traumatisme, tu peux t'en servir pour devenir plus fort. C'est l'option qui incarne la résilience. Cette notion qui fait que ton expérience traumatique devient un tremplin pour devenir plus fort, plus conscient. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé et tu es tout simplement la personne qui décide de te relever et de grandir à partir de ces épreuves. Et ça, encore une fois, tu n'es pas seul et je peux être là pour t'accompagner. Alors, je sais que c'était pas un épisode sûrement facile à écouter. Je te remercie du fond du cœur d'avoir été au bout de cet épisode. Mais il me semblait important d'aller vraiment mettre les pieds dans le plat. Et surtout, j'espère que ça a pu apporter un déclic, une prise de conscience, de te dire stop. Tu n'es pas ton trauma, tu n'es pas obligé de subir. Et surtout, j'ai vraiment envie que tu prennes en compte et en considération que tu peux prendre le risque de répéter certains schémas dans ta vie, le répéter, et c'est pas le but. Parce que oui, tu mérites de vivre pleinement ta vie. Je te remercie mille fois pour ton écoute. N'hésite pas à partager cet épisode pour encore une fois ouvrir un maximum de conscience. Tu peux aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses, me mettre des likes, des notes, etc. Et surtout, abonne-toi. Je te donne rendez-vous vendredi prochain. Prends soin de toi et à bientôt.